VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Congo-Brazzaville, première rencontre hier entre les ex-rebelles du Poule et le gouvernement depuis l'accord de cessez-le-feu du 23 décembre dernier.
En République centrafricaine, un mort et une dizaine de blessés lors d'une fusillade hier dans le PK5 à Bangui.
Au Nigeria, au moins 10 morts hier dans un double attentat suicide commis par de jeunes adolescentes à Maïdougouri.
Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo promet la vigilance après l'arrestation de suspects détenant des grenades à Accra.
Le président américain Donald Trump accuse la Russie de saper les sanctions internationales contre la Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport avec les derniers résultats du Chan au Maroc ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En République du Congo, le gouvernement et les ex-rebelles du Poule se sont réunis hier pour la première fois à Brazzaville pour l'application d'un accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre dernier, le point avec Yakuba Ouédraogo.
Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est arrivé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, lançant les travaux de la commission paritaire. Les représentants du gouvernement et ceux du pasteur Tata Ntoumi vont, entre autres, débattre du sort réservé aux chefs rebelles, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils vont aussi élaborer un calendrier pour l'application de l'accord de paix signé le 23 décembre dernier. Selon cet accord, l'ex-rébellion s'engage à faciliter le ramassage des armes détenues par ses ex-combattants et permettre la réinstallation de l'État et des populations dans le Poule. Elle devrait aussi y faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Pour sa part, le gouvernement se dit garant du processus de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Les affrontements depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016 ont mis 138 000 personnes en situation humanitaire difficile. Les violences ont aussi entraîné l'arrêt de l'exploitation du chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire.
Un mort et une dizaine de blessés, tel est le bilan d'une fusillade hier dans le PK5 à Bangui, en République centrafricaine. Une altercation entre hommes armés a provoqué l'incendie de magasins au Grand Marché. Les détails avec notre correspondant Freeman Sipila.
Un calme précaire règne en ce moment dans le PK5. Dans la matinée, ce grand quartier commercial de Bangui a été secoué par des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique. Selon Djibril Youssouf, président de l'association des commerçants, joint par VOA Afrique, tout est parti d'une bagarre entre un élément armé et un commerçant chez qui il venait prélever les taxes. Propos rejetés par Almiri Matar, alias Force, un des chefs des groupes armés du PK5, affirmant, je cite, « Il y a eu jet de grenades sur le terrain de football et une personne a été tuée lorsque les éléments autodéfense ont voulu réagir. On leur a également lancé une grenade. » Fin de citation. Bilan provisoire, un mort, une douzaine de blessés et plus de 10 magasins brûlés par les hommes armés. Le président des commerçants hausse le ton.
Nous demandons au gouvernement et à la MINUSCA de prendre les responsabilités, de mettre l'ordre dans les kilomètres 5. On a fait déjà marre de ça. À chaque fois sur l'autodéfense, on a fait marre. La population respire en demi.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées hier dans un double attentat suicide commis par de jeunes adolescentes à Maïdougouri. En outre, 2 Américains et 2 Canadiens ont été enlevés dans le nord du pays. Des détails avec John Linden.
Les explosions ont frappé hier un marché fréquenté dans le quartier de Muna Garage de Maïdougouri. 10 personnes sont mortes et 65 blessées selon Ibrahim Liman, responsable d'une milice locale. Selon lui, 2 filles mineures âgées d'environ 13 ans ont perpétré l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Boko Haram a déjà utilisé des femmes et des fillettes pour semer la terreur. Le 15 novembre, 12 personnes ont été tuées par 4 kamikazes qui se sont fait exploser à Maïdougouri. Par ailleurs, 2 Américains et 2 Canadiens ont été enlevés dans le nord du Nigeria. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja depuis la ville de Kaduna. Selon Mokhtar Aliou, porte-parole de l'État de Kaduna, des hommes armés non identifiés leur ont tendu une embuscade, tuant leur escorte policière. Il n'a toutefois pas fourni des détails sur l'identité des 4 otages, ajoutant que la police fait tout son possible pour les retrouver vivants et arrêter les ravisseurs.
Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo assure que son pays va rester vigilant suite à l'arrestation d'hommes détenant des grenades à Accra. Le point avec Raissa Gironda.
Après l'ouverture d'une enquête concernant la découverte d'explosifs dans la capitale Accra, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a promis de renforcer la vigilance face aux éventuelles menaces terroristes. Cela passera notamment par le renforcement des services de renseignement et de sécurité. 3 hommes, dont la nationalité n'a pas été révélée, ont été arrêtés en possession de grenades en début de semaine et placés en détention provisoire à Accra. Ils doivent comparaître le 30 janvier. Les enquêteurs recherchent les alliés éventuels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du pays, jusque-là épargnés par les attaques terroristes. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré: le Ghana est en sécurité et promet de tout faire pour que cette réalité continue. En effet, les mesures de sécurité avaient été renforcées en avril 2016 après un avertissement selon lequel le Ghana et le Togo voisin pourraient être la cible d'attentats islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a accusé la Russie d'aider la Corée du Nord à contourner les sanctions internationales, ajoutant que Pyongyang fait des progrès quotidiens dans ses efforts pour développer des missiles balistiques pouvant atteindre les États-Unis. Dans une interview à l'agence Reuters, M. Trump a en revanche loué les efforts de la Chine pour limiter les fournitures de pétrole et de charbon à la Corée du Nord, tout en disant que Pékin pourrait faire plus pour aider à pousser Pyongyang à s'engager sur la voie de la dénucléarisation. La Russie, quant à elle, n'aide pas du tout, a déclaré le président américain.
D'autre part, M. Trump a dévoilé hier soir sur Twitter ses prix fake news très controversés et dénoncés par avance par 2 sénateurs de son propre parti républicain, effarés, disent-ils, par ce spectacle et par les assauts présidentiel répété contre la presse. 2017 a été une année de partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et même de fausses informations éhontées. Des études ont montré que plus de 90% de la couverture médiatique du président Trump est négative, peut-on lire en introduction de la liste qui inclut notamment CNN, le New York Times et le Washington Post, cibles habituelles de M. Trump.
Et toujours à Washington, si les parlementaires américains ne s'entendent pas sur un nouvel accord sur le budget d'ici demain minuit, l'administration fédérale pourrait mettre le personnel non essentiel en chômage technique, faute de financement, Abdourahman Dia.
À 1 jour de l'échéance, le Congrès est encore loin d'un accord. Les républicains accusent les démocrates de freiner l'adoption du budget afin de renforcer leur position dans les négociations parallèles sur la question ultra-sensible de l'immigration. Les démocrates réclament un accord sur les Dreamers, ces jeunes entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants, et sur le programme fédéral d'assurance santé pour les enfants pauvres. Le président Donald Trump a abrogé le programme DACA qui a permis à près de 700 000 Dreamers de travailler et d'étudier en les protégeant de l'expulsion. Et la récente sortie présumée de Donald Trump sur Haïti et les pays africains a envenimé les débats. Les démocrates refusent aussi de financer le mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Bien que minoritaire, les démocrates peuvent tout bloquer au Sénat, où une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 sera requise pour faire passer le budget.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire crée une taxe spéciale consacrée à la sécurité. 4 000 à 5 000 francs CFA seront appliqués sur les billets de vols internationaux au départ ou à l'arrivée à Abidjan. Le gouvernement vise à contenir les coûts de sécurité liés à la lutte antiterroriste. Le principal indice boursier du Nigeria a progressé en dollars de 12% depuis le début de cette année. Stimulé par l'envolée des prix du pétrole, il a atteint son plus haut niveau depuis 2008. L'ouverture d'un guichet spécial au portefeuille étranger a attiré les investisseurs. D'après le FMI, le produit intérieur brut du Nigeria devrait augmenter de plus de 2% en 2018. Le Maroc veut créer une zone industrielle dédiée au secteur aéronautique dans la ville de Fès. Ceci permettra au royaume chérifien d'augmenter sa présence dans les régions du pays et donner un nouveau coup d'élan à l'économie de la région de Fès.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc empoche une deuxième victoire au CHAN 2018.
Face au Sili National de Guinée, les Lions de l'Atlas ont pu compter sur leur public du stade Mohamed V, une victoire 3 buts à 1. Ayoub El Kadi avait ouvert le score à la 27e minute de jeu pour les Marocains. Saïdou Babi Siri Camara égalise dans la foulée pour le Sili National. Mais El Kadi, encore lui, inscrit deux autres buts en deuxième mi-temps. Score final 3 buts à 1. Satisfaction évidemment de Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc.
Le fait qu'on ait gagné aujourd'hui, il y a beaucoup de causes. La première, c'est qu'on joueurs, ils ont l'habitude de jouer fréquemment, des matchs à répétition. Les joueurs du Wydad, ils jouaient dimanche, mercredi et dimanche. Les joueurs du FUS, les joueurs du Raja. Je pense que les joueurs de la Guinée n'ont pas cette habitude-là. Je pense qu'on a bien préparé par rapport à l'équipe guinéenne.
Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc, vous l'imaginez, c'est la déception du côté de la Pebangoura. Le sélectionneur de la Guinée.
Vous voyez le match surtout en première mi-temps, vous comprendrez que nous avons corrigé beaucoup d'erreurs parce que quand vous comparez cette équipe du Maroc à celle du Soudan, je pense en puissance de jeu et puis en rapidité sur l'imprécision. Le Maroc est un peu au-dessus du Soudan, mais nous avons fait contre eux, on a réagi. Et je crois qu'on a pu à un moment donné imposer notre jeu. À la reprise du match de la deuxième mi-temps, je crois le but que nous avons offert à jouer sur le plan mental, psychologique.
C'était Lapé Bangoura, le sélectionneur du Sili National de Guinée. Dans le deuxième match de la soirée, la Mauritanie s'est inclinée face au Soudan, 1-0. Les Mourabitounes qui sont éliminés de ce tournoi, tout comme la Guinée. On écoute le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins.
Autant ce soir, je peux rien leur reprocher. On a essayé de jouer vers l'avant, de leur poser des problèmes aux Soudanais. On s'est créé beaucoup plus d'occasions que le Soudan, je pense, ce soir, sans être efficace. Et dans le football, il faut savoir justement trouver cette efficacité défensivement comme offensivement. Et nous, sur une erreur de notre part défensive, on prend ce but.
Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.
La Côte d'Ivoire en quête de rachat.
Battu d'entrée de jeu par la Namibie 1-0, les éléphants locaux devront montrer un autre visage ce jeudi face à la Zambie. Amine Birouk à Casablanca pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire est déjà dos au mur dans ce CHAN 2017. 4 jours après leur défaite à Marrakech devant la Namibie, les éléphants sont dans l'obligation de se rassurer sous peine de quitter la compétition un an seulement après le camouflet subi lors de la CAN 2017 et quelques mois seulement après leur élimination du Mondial 2018. Pour atteindre cet objectif, l'entraîneur Ibrahima Camara compte sur un changement d'état d'esprit devant des Zambiens qui se sont distingués face à l'Ouganda sur le score de 3 buts à 1 dimanche dernier. Des Zambiens qui pourraient faire d'une pierre deux coups, se qualifier pour les quarts de finale et éviter une revanche de la Côte d'Ivoire 6 ans après la fameuse finale de la CAN 2012. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Et on rappelle que la Namibie jouera dans ce groupe B face à l'Ouganda.
Suspension levée pour l'US Wakam au Sénégal.
Oui, le club initialement reconnu exclusivement responsable des incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal. On s'en souvient, 8 morts et des centaines de blessés en juillet dernier. Eh bien, l'US Wakam a vu sa suspension levée en appel par le tribunal arbitral du sport. Le TAS confirme que l'US Wakam a perdu par forfait cette finale et que le stade de Mbour est le vainqueur du match. Mais le TAS estime que l'US Wakam n'est que pour partie responsable des incidents. Le juge a donc décidé de lever la suspension de toute compétition pendant 5 ans, prononcée contre le club par la commission de recours de la Fédération sénégalaise de football. Le TAS a également levé la rétrogradation en Ligue régionale infligée au club.
Cyclisme, Tropical Emissa Bongo.
La troisième étape entre Fungamu et Lambaréné, 114 km, une victoire italienne, celle de Rinaldo Nonsanteni. L'Australien Brendan Jones, vainqueur de la deuxième étape mardi, prend le maillot jaune pour une petite seconde devant l'Allemand Lucas Kartensen, vainqueur lundi de la première étape. Allez, Drissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Washington et Charlotte 109-133, la Nouvelle-Orléans et Atlanta 93-94, San Antonio et Brooklyn 100-95, Detroit et Toronto 91-96, Golden State et Chicago 119-112, New York et Memphis 99-105, Miami et Milwaukee 106-101, et les Lakers et Oklahoma City 90-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, des marches sont organisées régulièrement pour exiger un retour à la constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Le président Faure Gnassingbé a promis l'ouverture d'un dialogue qui sait toujours attendre. Eddie Essango a recueilli l'avis de la directrice exécutive de la Ligue civique togolaise, Farida Bemba Nabou Rema, de passage dans nos studios ici à Washington.
Ces manifestations ont joué un grand rôle tout d'abord à démystifier la situation politique au Togo. Parce que pendant longtemps, Faure Gnassingbé a essayé de vendre un Togo qui n'existe pas, c'est-à-dire un Togo où tout le monde l'apprécie, où tout le monde a accepté son règne, un Togo démocratique, un Togo où règne la paix.
À ces manifestations, le pouvoir ou le gouvernement oppose parfois des contre-manifestations pourtant.
Cela a permis au monde de voir quelle est leur capacité d'organisation et quel est le soutien qu'ils ont. Parce que nous, nous avons organisé des manifestations et nous avons obtenu des centaines de milliers de gens dans les rues, mais eux, à leur manifestation, ils n'ont pas été en mesure de drainer ne serait-ce que le dixième de la foule que l'opposition a réussi à drainer.
Il n'y a pas que des contre-manifestations, il y a aussi l'usage de la force des unités de sécurité qui interviennent.
Il y a aussi l'usage de la force de ce qu'on appelle les miliciens. Le gouvernement a armé des civils avec des machettes, des gourdins, même des kalachnikovs, et ces gens-là sont rentrés dans les quartiers pour agresser les manifestants, rentrer jusque dans les maisons des gens pour les agresser, et le gouvernement a appelé ces miliciens des groupes d'autodéfense. C'est inadmissible.
Le président Faure Gnassingbé en appelle à un dialogue. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous n'avons pas confiance en cette procédure parce que de 1990 à aujourd'hui, il y a eu un total de 22 dialogues au Togo et jamais le régime au pouvoir n'a respecté ses engagements. Si cette crise a eu lieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont refusé de respecter les engagements qu'ils ont pris durant l'accord politique global de 2006 à Ouagadougou. Alors, on ne va pas faire des dialogue pour pouvoir trouver des solutions à d'autres dialogues qu'on a fait par le passé.
Les présidents semblent accepter une révision constitutionnelle, mais qui pourrait avoir plutôt des faits sur l'avenir et non sur le passé.
Ça, c'est une excuse. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement qui a toujours créé une constitution sur mesure. Donc, quand ça les arrange, ils retirent des clauses de la constitution. Quand ça ne les arrange pas, ils en rajoutent d'autres. Et les Togolais sont fatigués de cela. Nous avions voté à plus de 99% en 1992 durant un référendum pour une constitution qui limite clairement les mandats et qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut servir plus de deux mandats. Donc si nous avons en tant que peuple, durant une conférence nationale souveraine, choisi une constitution, le fait qu'un régime militaire vienne changer cette constitution et revienne nous imposer sa nouvelle version n'est pas une chose que nous les Togolais sommes prêts à accepter.
La directrice exécutive de la Ligue civique togolaise, Farida Bemba Nabou Rema, de passage dans nos studios ici à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, 205 prisonniers de la maison d'arrêt de N'Djamena, considérés comme des couches vulnérables, sont libres de leur mouvement. La cérémonie de remise en liberté a eu lieu hier au sein de la prison et André Kodmadjingar était sur place pour VOA Afrique. Son reportage.
Cette remise en liberté fait suite aux instructions données par le président Déby lors de sa visite inopinée dans ce lieu d'incarcération le 18 novembre dernier. Visite à l'issue de laquelle il a déploré les conditions de détention de ses concitoyens en conflit avec la loi, considérés comme des personnes vulnérables. Ainsi, 55 mineurs, 13 femmes allaitantes et 33 majeurs bénéficient de cette grâce. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains, Jimé Arabi, cette libération n'exclut pas la réparation civile.
Cette grâce doit être considérée comme un pardon. Cependant, ce pardon ne préjudicie pas au droit des tiers. Vous serez tenu de réparer le préjudice que vous avez causé aux parties civiles.
Le procureur de la République précise quant à lui que cette grâce présidentielle ne viole pas les règles juridiques, mais plutôt une décision purement sociale. Mohamed Saleh Youssouf.
Ce n'est pas par gaieté de cœur que ces gens ont été mis en prison. Ils ont emprunt à la loi, et en emprunt à la loi, ils font l'objet de procédures. Le chef de l'État l'a instruit que ces personnes soient libérées. En disant que ces personnes soient libérées, il ne nous a pas demandé de violer la loi. Cela veut dire que ce n'est pas des décisions politiques, mais en tant que président du Conseil suprême de la magistrature, nous a demandé de prendre nos responsabilités. Nous avons pu prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces gens soient libérés conformément à la procédure en vigueur. Donc pour moi, c'est une très grande fierté de voir ces gens-là recouvrer leur liberté. La liberté, elle est sacrée. J'entends prendre les dispositions nécessaires pour que les mineurs ne remplacent pas les mineurs facilement.
Madame Dande Gano, employée d'une banque de la place, arrêtée pendant que son bébé avait 4 mois et demi, bénéficie également de cette remise en liberté. Aujourd'hui, sa fille a environ 1 an et 4 mois. Elle se réjouit et déclare qu'elle est prête à pardonner.
Je me suis retrouvée ici par rapport au manquant.
Vous reconnaissez les trucs?
À moitié. Il y en a qui sont dus à ma responsabilité. La grande partie n'est pas due à ma responsabilité. J'ai fait jour pour jour 9 mois et 3 jours aujourd'hui. Je remercie d'abord le chef de l'État qui a pris l'initiative. Je remercie aussi la CICR qui s'est occupée de nos enfants de plus près, qu'il soit malade, que ce soit la nuit, etc. Puisque moi j'ai été pardonné, je ne vois pas pourquoi je ne dois pas pardonner.
Ces mineurs libérés seront soutenus pour leur insertion sociale grâce à l'engagement pris par les partenaires du Tchad, rassure le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dine Arabi, car pour lui, l'État ne veut plus les voir repartir en prison. André Kodmadingar Ndiamena pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burundi, de nombreuses personnes mangent les restes de nourriture dans les poubelles de Bujumbura. Des vieillards, des femmes et des jeunes se retrouvent dans une décharge publique au nord de la capitale pour essayer de trouver des restes de haricots, pommes de terre ou autres. Trouver un repas quotidien au risque d'attraper des maladies. Reportage de notre correspondant Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Zone Buterere, en commune de Narangwa, au nord de Bujumbura, une odeur nauséabonde accueille les passants une fois arrivés au dépotoir de la place où sont déversées des saletés de la capitale. On trouve des restes d'aliments laissés par cela que l'on peut qualifier de plus nantis entre guillemets. Jeunes, filles, femmes et vieux se rendent vers cette place pour chercher de quoi manger. Cette femme connaît la place depuis plusieurs années. Témoignage.
Ça fait longtemps que je me dirige vers cette place. Tout autour, il y avait avant des arbres, un peu partout, jusque là où nous sommes. Je viens ici creuser des restes de nourriture, à cause de la faim et de la misère. Vraiment, ça fait de nombreuses années que je m'y rends régulièrement. Même aujourd'hui, où je suis devenue vieille, je suis là, à cause de la faim. Car souvent, le soir et à midi, nous n'avons rien à manger.
Une autre femme, sexagénaire, nous indique ce qu'elle ramasse pour manger dans ce dépotoir.
Pour dormir, je ramasse souvent des restes de pommes de terre dans ces saletés que je cuis et mange avec ma famille. Souvent, je trouve des haricots qui sont emballés dans un sachet. Après avoir cuit ces haricots, je mange et après je prends un verre d'eau. Et je dors comme ça.
Si ces femmes sont souvent dans ce dépotoir de Buterere, nombreuses sont celles qui deviennent malades après avoir consommé les restes de ces nourritures trouvées dans les poubelles. Cette maman à la cinquantaine nous parle de ces maladies.
On mange tout ce que l'on trouve ici. C'est Dieu qui nous maintient en vie. Souvent nous avons la malaria, la typhoïde et des diarrhées récurrentes, mais on n'y peut rien. On mange comme ça.
Jean Yanogeye est un nutritionniste qui est au fait de la situation. Il nous brosse un tableau critique de la situation alimentaire au Burundi.
On ne peut pas dire que la situation alimentaire et nutritionnelle est vraiment en bonne position. Et pour preuve, selon une étude réalisée par la FAO en 2016, environ 50% des enfants de moins de 5 ans ont la malnutrition chronique. Et selon la même organisation, appuyée par aussi l'OPAM, plus de la moitié de la population burundaise mange une fois par jour. Vous voyez que c'est inquiétant. Dans beaucoup d'écoles, il y a des abandons scolaires dus aux problèmes alimentaires.
Je compte aussi souligner que dans ce dépotoir de Buterere, la population mange sans se laver les mains à côté des mouches qui pullulent. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'UNRWA fait face à sa crise financière la plus grave depuis 1949, année de sa création. L'annonce par les États-Unis d'un gel de plus de la moitié de leur aide à l'agence onusienne est un coup dur pour l'UNRWA. Elle apporte son aide à une grande partie de plus de 5 millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban ou en Syrie. Claire Morin-Gibourg a joint le chercheur de l'Institut français du Proche-Orient basé à Amman, Dialal Al-Husseini.
Ça fait partie de la nouvelle orientation de l'administration Trump, qui est de prendre des décisions assez nettes et tranchantes qui visent à résoudre le plus rapidement possible le conflit israélo-palestinien. Mais là, dans un sens qui épouse les thèses israéliennes, c'est-à-dire, on l'a vu il y a quelques semaines, donc reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État israélien. Et là, on s'attaque à la question des réfugiés, en s'attaquant à l'UNRWA. Donc, il s'agit de la question cruciale, la contribution budgétaire des États-Unis au budget de l'UNRWA.
Concrètement, comment cela va-t-il se ressentir sur le terrain?
Eh bien, déjà, l'UNRWA a pris quelques mesures. Vous savez que l'UNRWA, d'abord, est une agence temporaire et 95% de son budget est financé par des contributions volontaires des États de la communauté internationale. Et donc, cela l'expose, l'a toujours exposé à des crises financières. Ce n'est pas la première. Mais cette fois-ci, elle est très importante, puisque là, vraiment, les États-Unis ont coupé de moitié leur contribution. Alors, ce qu'a fait l'UNRWA, c'est ce qu'elle a fait durant les autres crises. On commence par supprimer les travailleurs temporaires de l'UNRWA, par exemple, et donc déjà de nombreux postes d'enseignants, de travailleurs dans les camps de réfugiés pour la maintenance, etc., ces postes ont été supprimés, et d'autres postes seraient supprimés. Pour l'instant, disons, le fonctionnement, les écoles fonctionnent encore, hein, le staff permanent est toujours en place, pour l'instant. Et donc, l'UNRWA n'a que d'autres choix pour l'instant, soit de faire pression sur les États-Unis de façon à ce qu'ils reviennent sur sa décision, ou alors de chercher plus d'argent des autres contributeurs volontaires, notamment de l'Union européenne, ou alors des pays arabes, et en particulier des pays arabes du Golfe, qui n'ont pas été des grands financiers de l'UNRWA jusqu'ici. Donc, on pourrait leur demander un peu de mettre plus d'argent à contribution.
Est-ce que pour vous, cela peut envenimer le conflit israélo-palestinien?
Oui. Alors, vous voyez, l'UNRWA a deux dimensions. Donc, une dimension opérationnelle, c'est la question des services. Et puis, l'UNRWA est devenu, hein, depuis des décennies maintenant, le symbole de la responsabilité onusienne, de la responsabilité des États de résoudre le problème des réfugiés de manière juste. Et pour les pays arabes, c'est la résolution 194 qui stipule que les réfugiés devraient soit avoir le droit de retourner à leur maison d'origine ou alors de recevoir une compensation. Donc s'attaquer à l'UNRWA ici, cela signifie déjà vouloir enterrer la question des réfugiés avant qu'elle soit négociée. Et c'est ça qui est en jeu également. Donc cela risque d'envenimer la situation et on risque d'avoir dans les prochaines semaines, si les États-Unis ne reviennent pas sur leur décision, et bien on risque d'avoir des écoles qui ferment, des dispensaires qui ferment et donc on risque d'avoir des manifestations et des troubles dans la région.
C'était Dialal Al-Husseini, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Il était joint à Amman.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, Zoom sur le championnat d'Afrique des nations de football, plus connu comme le CHAN, la compétition qui se dispute au Maroc du 13 janvier au 4 février, met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.